Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Donc, vous êtes dans l'émission Citoyens d'abord. Donc, on a un cycle d'émissions spécifiques qu'on fait depuis maintenant trois semaines, un mois. Hein.
C'est la troisième, là, ouais.
Voilà, où on a nos invités de l'API de l'île Five. Donc, je vais d'abord faire, dans un premier temps, un petit tour pour que mes invités puissent se présenter. Et après, on va revenir un peu sur l'organisation de notre émission.
Bonjour, moi je m'appelle Clément, je suis donc militant à l'APU FIV et puis je suis là aussi au titre de mes activités de chercheur. J'ai fait une thèse sur les transformations urbaines à Roubaix, en l'occurrence sur le projet de l'Union. C'était dans un travail comparé et on m'a demandé de venir causer un petit peu de mon travail là aujourd'hui.
Donc Simon, je suis aussi à l'APU de FIV comme Clément et voilà, je viens pour parler un petit peu de tout ce qui va se dire, rien en particulier aujourd'hui, mais voilà, pour suivre un peu le déroulé de l'émission.
Non mais ça va, il y a un micro.
Bonjour, moi je m'appelle Janoé, je suis universitaire et je suis aussi au collectif d'habitants de la Lyonderie, donc un projet de rénovation urbaine dont on va parler aujourd'hui.
Donc bonjour, moi c'est Santa, donc je fais partie du collectif de la Lyonderie de M. Et je viens pour parler justement de mon quartier où il se pose beaucoup de problèmes.
Voilà, donc on va peut-être commencer par l'APU. Qu'est-ce que l'APU ? Un petit rappel historique.
Ouais, bah on le redit comme à chaque émission, mais c'est important de le rappeler. Donc l'APU de FIV et puis aussi pourquoi cette émission. Donc l'intérêt, donc nous on est une association qui travaille spécifiquement sur les questions de droit au logement. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes d'habitat indigne, insalubre, logement pourri ou qui ont, comme on en rencontre malheureusement assez souvent, des propriétaires qui sont pas super réglo et qui essayent de magouiller un peu pour quelques raisons que ce soit. Et donc du coup, voilà, souvent les locataires, ils sont dans une position qui fait que c'est compliqué pour eux, ils connaissent pas forcément leurs droits et ils ont souvent tendance à céder par rapport à des pressions qui peuvent être mises ou des difficultés à se loger, etc. Enfin, tous les problèmes qu'il y a en fait dans la vie d'un locataire ou d'un habitant qui a des difficultés à se loger dans une ville où la vie elle coûte cher comme où les logements coûtent cher comme à Lille. Et donc du coup, nous on est là pour conseiller, pour accompagner, pour aider les personnes qui ont des problèmes par rapport au logement. Et du coup, on les accueille collectivement, on parle des problèmes, on travaille avec une équipe d'avocats aussi, donc des militants, une équipe salariée, donc deux personnes qui travaillent aussi, qui suivent les familles. Ça tourne comme ça depuis 3 ans. Donc en 3 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres, mais on essaie d'avancer. Ça se passe en général. On essaye de résoudre tous les cas qu'on rencontre sur le quartier de Five, mais aussi plus généralement sur la métropole. On intervient aussi dans des quartiers où il y a des problèmes, comme à Roubaix au quartier du Pil ou à l'île Sud. On fait ça.
Oui. Et peut-être préciser aussi, donc APU, ça veut dire Atelier Populaire d'Urbanisme. Et à la base, c'est une association qui a été créée à Roubaix autour de la rénovation urbaine de l'Almagar. Et donc, vous vous inscrivez aussi dans une certaine filiation, en tout cas, de défendre l'idée d'un droit à la ville pour tous.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on part du problème du logement, parce que le problème du logement, c'est ce qui touche de manière plus intime les personnes dans leur vie quotidienne. Mais on pense que la question, c'est pas seulement le logement, c'est aussi l'environnement de manière plus générale. Enfin, on peut l'appeler de plusieurs manières, le cadre de vie, l'environnement, enfin, le quartier, etc. Et on estime que les gens ont à minima un droit de regard, et nous on est même plutôt tendance à affirmer le droit de se concerter ensemble et de décider comment doit évoluer leur quartier, comment il doit se transformer. Et c'est vrai que l'APU à la base, les APU, c'est né justement de la rencontre d'habitants donc du quartier de l'Alma à Roubaix, qui quand un projet de rénovation arrivé d'en haut comme ça tombe sur un quartier et transforme la vie de chamboule la vie des d'habitants, bah comme on va en parler encore avec la Lyondrie à M aujourd'hui, hein, ça a pas changé depuis 40 ans, hein, c'est toujours les mêmes problématiques. Et ben voilà, ces habitants là, ils sont réunis et ils ont lutté ensemble pour pouvoir avoir le droit de dire leur d'avoir leur mot à dire, de transformer eux-mêmes leur quartier et d'arrêter de subir la rénovation. Sachant qu'en général, en plus, c'est des personnes qui sont très bien conscientes que leur quartier, même s'ils l'aiment, il y a des problèmes, peut y avoir de l'habitat insalubre, il peut y avoir des logements qui sont anciens, etc. Donc plein de choses à faire. L'idée, c'est pas de se bloquer, dire non, on veut rien faire, on veut laisser le quartier comme il est. C'est non, on sait qu'il y a des trucs à faire, mais c'est à nous de dire comment on va le faire, parce que c'est nous qui allons vivre dedans. Et que donc, du coup, on doit avoir la main là-dessus, quoi.
Donc vous amenez aussi une aide technique pour que les habitants puissent aussi participer, comprendre un peu les enjeux qu'il y a autour de leur quartier.
Exactement, parce qu'en plus, c'est des choses qui sont ultra techniques et très rapidement, quand on met le nez dedans, on peut se retrouver vraiment perdu, quoi, parce que c'est... donc nous, on informe sur les droits, les possibilités pour chacun de faire valoir son droit face, que ce soit... d'un propriétaire, ou là en l'occurrence on parle de rénovation urbaine, donc ça va être d'un aménageur, d'une municipalité, enfin, etc., des personnes qui vont essayer de mener à bien le projet. Et c'est un peu l'objectif. D'une part, informer dans un premier temps, et puis rassembler surtout. Nous, on pense que c'est ça le plus important, c'est de créer des luttes collectives, quoi, parce que c'est là quand on est ensemble qu'on arrive à peser dans le débat. Et que donc du coup voilà, aider à mener ces luttes collectives et du coup des actions, voilà, pas aller de l'information à l'action, voilà.
Et comme dans certains quartiers, souvent les politiques se défaussent sur les aménageurs ou sur quelconque autre service pour justement laisser les habitants sans réponse, ce qui arrive très souvent malheureusement.
C'est souvent, enfin, nous, ce qu'on rencontre, ce qu'on a rencontré, par exemple, il y a pas si longtemps que ça au pile, mais je pense qu'on pourra en parler après avec la Lyondrie, c'est un espèce de, vu qu'il y a plusieurs acteurs dans ces projets-là, c'est un peu une espèce de partie de ping-pong qui se joue toujours, amenant c'est eux, amenant c'est nous, et quand on va voir d'un côté, on nous dit, non, l'information, elle est là-bas, donc c'est fatigant, mais voilà, de toute façon, les projets, donc il y a toujours un maître d'œuvre qui a un peu la main sur le projet, il y a un financeur qui est derrière qui amène les sous, il y a l'État qui est derrière encore si c'est des projets de rénovation type en rue, enfin rénovation urbaine, Agence nationale de rénovation urbaine. Donc voilà, qui sont vraiment les où on détruit pour reconstruire derrière, donc avec des gros financements et donc du coup des gros enjeux derrière tout ça. Donc voilà, dès que petit habitant on arrive et ou petite association on vient pour fourrer notre nez là-dedans et un peu essayer de comprendre comment ça se passe et où sont les intérêts des différents acteurs, c'est des projets encore une fois qui brassent du monde, qui brassent des acteurs, qui brassent du fric, qui brassent beaucoup de choses, et du coup c'est compliqué, mais voilà, on essaye de d'y répondre, quoi.
En même temps, la complexité par rapport à un habitat lambda qui va se retrouver confronté à des cahiers, à des textes, où on va l'inviter à des réunions parce que la puissance publique est, pour obtenir des financements, obligée de répondre à un certain cahier des charges, mais elle fait de la participation pour faire de la participation. Mais se retrouver face à des termes juridiques, ils doivent aller au conflit, c'est compliqué. Vous savez, demander à quelqu'un d'attaquer une municipalité, un petit citoyen dans son quartier, là, il réfléchit à deux fois avant d'y aller. Hein. Parce que c'est...
Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est compliqué. Après, l'objectif, c'est ça qui est dur aussi, c'est que y a... tous les cas de figure se ressemblent pas forcément. Et des fois, on peut être en face d'une... ça peut arriver hein, d'être en face d'une municipalité ou en fonction des contextes qui peut être plus à l'écoute qu'à d'autres moments. Il y a des fois où, comme tu dis, ça peut être beaucoup plus violent. Et on l'a vu assez récemment dans le cadre du PIL, notamment de la rénovation du PIL, où voilà, quoi, quand où il y a une forme de mépris qui se développe par rapport à toute forme d'initiative habitante, citoyenne, militante, quoi. Et donc, ouais, c'est ça, ouais.
Donc, des outils, une aide juridique.
Voilà, des outils, une aide juridique, donc des permanences qu'on fait une fois par semaine, donc dans notre local à Lille, 57 rue de Flers. Donc voilà, on a un site internet apufiv.org pour ceux qui veulent aller voir un peu comment ça se passe. Et à côté de ça, des activités qui sont proposées tout le long de la semaine, donc des ateliers thématiques autour des questions qui sont liées par exemple à la question des expulsions. On est en train de créer un cycle en ce moment sur les expulsions, parce que voilà, c'est un gros problème dans l'île, enfin pas que sur l'île, mais dans des villes ou comme ça où le logement coûte cher, etc., avec beaucoup de familles qui viennent nous voir pour des problèmes de dette de logement. Et donc, du coup, des fois, dans des situations, elles se retrouvent dans des processus d'expulsion. Donc, nous, on les accompagne, on est là pour leur montrer, mais doucement, parce qu'on leur met la pression via des huissiers, via d'autres, des choses comme ça. Et donc, du coup, on est là pour déjà les rassurer, leur dire, non, mais il y a des droits, ils peuvent pas vous jeter dehors. Il y a une trêve hivernale, déjà, qui dure du 31 octobre au 1er avril. Donc, ça, pendant ce laps de temps, vous pouvez pas être dehors. Après, on peut faire des recours juridiques, on peut machin, on peut truc, voilà. Donc, c'est vraiment essayer déjà de rassurer, montrer qu'il y a un cadre et qu'il peut pas leur arriver tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, voilà, on rassemble ces personnes qui rencontrent ces mêmes problématiques, voilà, pour en discuter et puis pour essayer aussi d'améliorer les choses. On se dit, bon, bah, voilà, c'est compliqué. Comment on peut faire pour que les gens soient mieux informés, pour lutter collectivement de manière plus, efficace, proposer des nouveaux droits, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc voilà, là on est un peu au milieu de ce cycle là, donc il y a pas, on en reparlera peut-être au mois de mars quand on débouchera sur la fin, mais voilà, donc ça peut être ça. On fait des cantines aussi tous les midis, on essaie d'organiser un peu une vie de quartier en fait au sein de ce local. Enfin, on fait une cantine tous les lundis midi qui est ouverte à tous, où on vient cuisiner ensemble le matin, on mange ensemble le midi sur une grande table, voilà, où on partage. C'est un cadre un peu où on accueille les personnes dans un cadre un peu moins lourd ou pesant que ça peut être, genre quand on vient pour parler de ses problèmes. Là, on peut parler des problèmes, mais on peut parler de tout le reste en fait, tout ce qui fait la vie d'un quartier, et ça c'est plutôt chouette. On a une bouquinerie avec justement plein de ressources sur les questions du logement, sur les questions de la ville, des transformations de la ville. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, Clément, aide-moi.
On fait des balades urbaines aussi. C'est pas directement dans le local, mais c'est un élément important de la vie de l'association. On fait ça quoi, tous les deux mois en ce moment, tous les deux, trois mois, pour présenter le quartier de Fives, mais avec un autre regard en fait, pour montrer par exemple l'histoire du quartier, pour rappeler, ah bah là il y avait une usine, et puis là il y a une mobilisation d'ouvriers, une mobilisation d'habitants, pour rappeler un petit peu ces éléments de l'histoire que l'histoire officielle et la mairie a tendance un peu à oublier ou vouloir oublier, parce que ça rappelle que les gens ont pas toujours été d'accord avec la manière dont la ville se transforme, qu'ils ont parfois élevé un peu la voix, qu'ils ont pas toujours été entendus, et on trouve ça super important pour aussi les nouveaux habitants, parce que dans les quartiers comme ça, comme Fives, dans une agglomération comme Lille, où les loyers explosent, etc., il y a beaucoup de gens qui arrivent de loin, qui arrivent souvent avec des revenus plus élevés que les gens qui habitent déjà là, et du coup ils sont pas des mêmes milieux, et leur rappeler à ces gens là aux petites classes moyennes diplômées qui débarquent dans Fives que en fait ça reste un quartier ouvrier, que c'est important que les classes populaires elles aient encore droit à la ville dans cet endroit là et qu'il y en a eu encore plus dans le passé, et qu'elles ont eu aussi leur mot à dire sur comment elles ont essayé de prendre la parole sur comment le quartier devait se transformer. Toutes ces choses là on trouve ça important de le rappeler, quoi, pour remettre un peu de politique là-dedans, quoi. Quand le discours officiel laisse entendre que les gens sont d'accord, qu'il y a eu concertation, etc., aller rechercher les moments de l'histoire un petit peu, ou de l'histoire très, même parfois très récente, hein, des dernières années, où les gens étaient ouvertement pas d'accord et où ils ont su un peu élever la voix, quoi.
Se mobiliser.
Ouais.
Peut-être nous parler des chantiers que vous avez en cours. Alors, par logement, on parle chantier.
Les chantiers en cours. Déjà, si je peux, un chantier malheureusement qui nous occupe beaucoup aujourd'hui et dont on aimerait bien se passer, c'est le chantier de notre propre survie. Malheureusement, parce que voilà, donc on est dans une situation. C'est bien de le rappeler aussi. Donc, comme je disais, on est à 2 salariés, donc on a un budget qui est petit, mais qui est quand même voilà, qui existe et qui travaille à mi-temps. Et donc, du coup, comment on se finance ? On se finance à la base via c'était via des fondations privées et type Fondation de France, Abbé Pierre. Et en fait, notre objectif, c'est que vu qu'on fait un travail qui nous, on estime dans l'accompagnement des familles, qui est un travail de service public, enfin en tout cas qu'on peut rapprocher de ça, c'est-à-dire que du coup on fournit un service vraiment réel à des habitants dans une ville par rapport à un dysfonctionnement de la ville qui est celui de l'expulsion des personnes précaires, qui est celui des difficultés de logement, des logements, enfin voilà.
Et donc du d'utilité coup, publique.
D'utilité publique, voilà. D'ailleurs, on est reconnu d'utilité publique. Et du coup, on est financé dans ce cadre-là aussi. On essaie de se faire financer par par la mairie ou par la métropole, ce qui peut poser des problèmes parce que dans nos actions qu'on a au quotidien, en fait, il se trouve que de temps en temps, enfin régulièrement même, on se retrouve en face d'eux, dans le camp d'en face, c'est-à-dire à critiquer leur politique, à critiquer quelle que soit l'étiquette politique. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de rien à voir avec ça. Et que donc du coup on est dans cette espèce de rapport de force permanent, donc de dire oui on vous critique, oui on n'est pas d'accord avec la manière dont vous faites la ville quoi, mais à côté de ça on fait des actions, on rend un service à la population que vous n'êtes pas en mesure de rendre, que vous devriez rendre, que vous n'êtes pas en mesure de rendre, et donc du coup vous avez besoin de nous en fait, et donc du coup vous pouvez pas nous lâcher, vous pouvez pas nous dire que ce qu'on fait ça sert à rien, etc. Parce que vous savez que ça sert, vous savez qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui voilà. Et du coup ils sont conscients de ça. Et du coup voilà, on essaie de jouer là-dessus, mais c'est compliqué. Et à l'heure actuelle, par exemple, on a un peu du mal à boucler l'année, mais bon, enfin. Voilà, ça c'était pour faire rapide. Mais sinon, les chantiers actuels autres. Donc je disais, il y a ce collectif expulsion. Il y a aussi, je pense qu'on peut le dire, l'organisation de justement autour de la fin de la trêve hivernale. Régulièrement, les acteurs du droit au logement locaux et puis un peu partout en France organisent des manifestations, pour défendre ce droit à la trêve, et puis d'autres qui voudraient que cette trêve, je lisais une interview il y a pas longtemps du DAL HLM à Toulouse, qui racontait que eux ils étaient pour la trêve éternelle, c'est-à-dire qu'à partir du 31 mars, on a le droit d'expulser les gens de leur logement, l'idée ça serait de faire que cette trêve elle puisse continuer encore, pourquoi pas. Et donc du coup dans ce cadre-là, nous on va organiser une grande réflexion, une semaine en fait de rencontres, de projections, de discussions, de débats, etc. autour de la question des expulsions, mais plus largement aussi de ce que nous on appelle le droit à la ville, c'est-à-dire que le droit à chacun en fait de pouvoir habiter là où il le désire, de choisir son habitat et d'agir dessus, ce qui est un peu aujourd'hui pour un locataire le seul droit qu'il a c'est de repeindre ses murs en bleu et encore. Qui fait écho aussi du coup aux 50 ans d'un ouvrage qui est un peu fondateur dans justement ce droit-là, qui est un ouvrage d'Henri Lefebvre qui s'appelle Le droit à la ville et qui justement pose ça, qui pose justement cette question du rôle des habitants dans leur environnement, en montrant que en fait la ville elle est construite par des techniciens et que les personnes qui l'habitent en fait n'ont pas cette capacité de voilà, c'est un peu une ville, comment faire une ville plus entre guillemets démocratique quoi, et tourner vers les habitants avec des initiatives qui partent du bas et pas qui sont toujours larguées d'en haut avec les problèmes que ça pose sur la vie des gens ensuite quoi.
Ouais. C'est quelqu'un qui a bien, vraiment bien démontré comment est-ce que c'est un problème fondamental que la production de logement, ça soit devenu un business, en fait. Et qui dit, le logement doit pas être une marchandise. C'est parce que le logement est une marchandise qu'aujourd'hui, les gens s'appauvrissent pour juste avoir le droit d'avoir un toit sur la tête. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait partir de ce droit-là fondamental d'avoir un usage d'une maison, d'un appartement, d'avoir un logement salubre dans lequel on peut vivre. Et c'est criminel de laisser ça être un produit marchand, en fait. Un produit sur lequel on fait de l'argent, où il y a des gens dont c'est le métier de produire les logements, de les revendre, d'en avoir plusieurs, de les louer, et de profiter comme ça de juste de la là, j'ai envie de dire de la détresse des gens, mais ça concerne aujourd'hui 60-70% de la population française qui a pas la possibilité d'accéder à la propriété ou qui doit s'endetter sur des dizaines d'années pour le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, quoi, de rappeler aujourd'hui que ça devrait pouvoir redevenir dans le débat une option de dire on devrait tous avoir droit à un toit sur la tête sans que ce soit une source de dépenses dans nos budgets gigantesques comme c'est le cas aujourd'hui. On n'a jamais autant dépensé d'argent que dans les années 2010 qu'aujourd'hui, juste pour avoir le droit d'avoir un toit sur la tête. Et ça, c'est la conséquence directe de comment est-ce que les promoteurs immobiliers font du business avec la production de logements, de comment est-ce que les multipropriétaires font du business avec en étant bailleurs de mille et un appartements. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important, parce qu'au fond, c'est ça le problème fondamental qui rassemble toutes les questions dont on a parlé, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a un marché pour les logements pourris qui se développe, parce que c'est là qu'on va loger tous les gens qui rentrent pas dans les petites cases de vous gagnez deux fois, trois fois le loyer. Donc ça concerne cette question d'insalubrité aussi, puis les questions d'expulsion, c'est directement ça aussi, hein, puisque c'est les personnes qui arrivent plus à rassembler assez de revenus, glaner assez d'argent à droite à gauche, entre les petites aides sociales par là, les petits revenus du travail par là, de l'autre côté, qui du coup se retrouvent en danger d'être mis dehors. Tout ça, ça a un peu ce point commun là, donc on trouve ça important de rappeler ça et de faire une belle semaine où il y a un peu des débats, des conférences, puis aussi une petite partie festive. Il me semble qu'il y aura, des concerts, etc.
Juste aussi une petite aparté pour prévenir Farouk qu'on va faire une petite pause qui s'organise. Mais on peut continuer sur la semaine que vous allez préparer.
Hein. Non, de toute façon, on en est au tout début. Donc voilà, je pense qu'on a dit ce qu'il y avait à dire. Mais voilà, non, c'est voilà. Et puis après, au niveau des activités qui sont autrement à la PU, je pense qu'on est déjà bien.
Ce qu'il faut qu'on rajoute quand même, parce qu'on a une sorte de modestie qui finit par nous coûter cher. Les pouvoirs publics ont mis des années à nous donner des clopinettes pour faire notre travail, alors qu'ils reconnaissent tous qu'il est incontournable. En 3 ans, les salariés ont accompagné près de 400 familles. Les mairies, quand on leur dit ça, ils arrivent pas à nous croire, en fait, parce que eux, ils emploient des dizaines de personnes dans les services, les CCAS, etc. Et ils font pas la moitié de ça, en fait. Donc, ils en arrivent à croire qu'on truque nos chiffres tellement que le rapport d'activité est assommant. Malgré ça, il a fallu quémander pendant des années, avec chaque fois, chaque année, les mille et un dossiers auprès de la politique de la ville, auprès du service habitat-logement, auprès de la métropole, pour avoir, au bout de 3 ans, 10 000 euros de la mairie de Lille, 3 000 euros de la communauté urbaine, et c'est tout. Le département ne nous donne absolument rien, la région ne nous donne absolument rien, et on n'a que des déclarations d'intention et des petits remerciements, des petites courbettes de principe, mais au moment où il faut mettre la main au porte-monnaie, il n'y a plus personne. Et ça, c'est de la complicité de ce dont je parlais juste avant, en fait, cet appauvrissement des gens, leur mise sous pression à travers la montée des prix des loyers et la disparition d'un espace habitable abordable dans la ville. Les pouvoirs publics, en encourageant cette promotion immobilière, parce qu'ils leur mettent à disposition des terrains, ils laissent ce marché se développer, et en ne venant pas au secours de toutes les personnes les moins dotées qui n'ont pas la possibilité d'accéder au logement sans s'appauvrir radicalement, ils sont complices de ça. Et là, en nous riant à ce point-là au nez, en nous donnant aussi peu après autant d'efforts bureaucratiques, on trouve ça pas normal, du coup. Et une des tentatives qu'on a développées pour s'en tirer, parce que là, aujourd'hui, on a 20 000 euros de négatif sur le bilan de l'année et 7 000 euros de négatif sur le compte. On a dû faire plein de magouilles pour essayer de s'en tirer, et financièrement, c'est très compliqué. On développe une campagne d'appel à dons, du coup, où on s'adresse aux gens qui ont un peu plus que ceux qui n'ont rien, et qui, justement, payent un peu d'impôts. Vu qu'on est d'utilité publique, on peut nous faire des dons en déduisant, je ne sais plus le pourcentage, je ne sais jamais si c'est...
66, non ?
C'est les deux tiers du don qui, du coup, sont déduits d'impôts. Donc, c'est obliger l'État, finalement, à réinvestir ce qu'il n'a pas voulu donner de lui-même, en fait. C'est en lui empêchant de toucher des impôts qu'il aurait pu toucher. C'est une bonne manière de réorienter les politiques publiques, quoi.
Tout à fait.
Donc voilà, c'est une manière assez concrète de s'engager, qui ne prend pas énormément de temps quand on a un travail et plein d'obligations de vie de famille. Donc on a un appel à don. Quand on tape APUFIF dans Hello Asso, c'est un site qui est fait pour ce genre de don, on peut faire un don imprimer un reçu fiscal, c'est encore possible avant le 31, là, donc ça permet de défiscaliser pour la bonne cause. On fera pas de papers à ce propos, ou si on en fera, ce sera que glorifiant pour les personnes qui auront fait le choix de ces dons-là. Donc voilà, faut pas hésiter à faire circuler cette information-là. On a beaucoup de gens qui sont hyper engagés dans l'association, qui osent pas le dire, parce que c'est en partie leur revenu qui est en jeu. Et je pense que ouais, nous, en interne, il faut qu'on apprenne à être un peu moins modestes là-dessus, parce que c'est un peu la survie de nos associations et le travail hyper concret qu'elles font au quotidien qui est en danger. Donc voilà, il faut le rappeler aussi. Quoi.
Et il y a aussi un lien, du coup, pour compléter directement sur le site internet de l'association, donc apufiv.org. Voilà.
On fait une petite pause musicale et on revient en deuxième partie pour parler un peu...
Arrêtez de parler de nous, pour parler un peu des autres.
Donc on va laisser par où ?
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Et sur ce, salutations révolutionnaires, cette misère, calme, faut y aller.
Rendez-vous en enfer,
rendez-vous à l'enfer. Salutations révolutionnaires.
J'aurais pu grandir en Arménie ou faire du robadob à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un doua qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre, ou mourir de faim au Bangladesh, être trop fidèle dans les Caraïbes, avant les rues de Bagdad ou de Marrakech.
Calme, faut y aller.
Unis et solidaire derrière la même bannière.
Calme, faut y aller.
Et yo, lève le poing,
refuse ce bon en arrière.
Calme, faut y aller.
Ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Enfermé dans les géoles de Salazar, Thomas Sankara au Burkina Faso, vivre les révolutions de Simon Bolivar, caché au fin fond des montagnes tchétchènes, pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place Tiananmen, étudiant chilien en ce maudit jour de septembre, avec Massoud à Kaboul, face aux soviétiques et puis aux talibans, ouvrier coréen en grève à Séoul, défendre les droits de la femme à Téhéran. Passer ma vie dans les apartheid de Cisjordanie ou de Johannesburg, peut-être Trima, puis même l'Oued et Amani et dans ses faubourgs.
Faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière.
Faut y aller, et yo, lève le poing,
refuse ce bon en arrière.
Faut y aller,
ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Trop d'étrangers disent qu'on peut pas se mélanger, on peut pas laisser passer assez. À la guerre comme à la guerre se lancer, à la sauce ces discours insensés, rassembler rien pourra nous stopper. Quand faut y aller.
J'aimerais tellement pouvoir me taire, n'avoir rien à dire sur cette terre. Que les hommes entre soi pissent, qu'ils s'aiment et s'entraident comme des frères. de New York à Bagdad, de Damas à Jérusalem, que la terre mère nourricière mange à sa faim, sortant fin de cet enfer. J'aimerais tellement pouvoir rester seul, caché, vivre d'amour, de date et d'eau fraîche. Mais ce que je vois, ce que je sais, en moi je peux pas le garder, me taire. Si tu savais combien des fois au fond de moi j'aimerais révolter, je passerais des journées à pleurer en regardant à la télé ce gosse paru mutilé. À quoi ça me servirait si je me taisais juste après, disant que de toute façon rien ni personne ne pourra rien y changer. Compte bien que jamais je changerai, je garderai toujours en moi la force, l'envie, la rage, la volonté. Tant qu'il me restera un souffle de vie sur cette terre, compte pas sur moi pour me taire. Sur ce, salutations révolutionnaires.
Il faut y aller, dame, faut y aller, faut y aller.
Unis solidaire, unis solidaire derrière la même bannière.
Faut y aller, dame, faut y aller, faut y aller.
Hey yo, lève le poing,
lève le poing, refuse ce bond en arrière.
Il faut y aller, dame, faut y aller, faut y aller.
Ne pas baisser les,
ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Faut y aller, dame, faut y aller, faut y aller.
Rendez-vous en enfer,
rendez-vous en enfer. Salutations révolutionnaires.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Retour sur les ondes de Pastel FM, donc 13h passées de 5 minutes, on est dans la deuxième partie de notre émission. Donc je vous laisse introduire un peu le sujet.
Bah là on va plutôt parler, du coup on a parlé de rénovation urbaine pas mal dans le cadre des activités de la PU, mais là on va parler peut-être d'un cas plus particulier pour un peu illustrer, je pense, qu'est-ce que c'est que ces problèmes-là au quotidien pour les gens qui les vivent, et puis qu'est-ce qui peut être fait pour essayer d'améliorer les choses. Donc après je vais laisser Janoé et Anita parler sur ce sujet-là.
Ouais, moi j'aimerais juste quand même repréciser un peu ce que c'est que la rénovation urbaine en France, parce que c'est vrai que généralement, on en a une idée assez vague quand même, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, on a décidé que l'argent qu'on avait mis dans les quartiers populaires, donc la politique de la ville, était inefficace. On a dit, finalement, cet argent a été mal dépensé. Et on s'est dit, comment on pourrait réinvestir dans les quartiers populaires ? Et l'idée qui a été trouvée, c'est de tout détruire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un endroit qui est un quartier populaire, qui a sa vie spécifique, etc., on va se dire, eh ben, cet endroit, il faut détruire. Alors souvent, c'est des HLM, mais pas que. Et il faut rénover et il faut mettre souvent une nouvelle population.
C'est le plan Borloo, ça.
Et ça, c'est le plan Borloo qui date de 2003, donc a créé l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc ce qui est complexe, c'est que c'est pas exactement l'État qui s'en occupe, mais en fait, au final, c'est des fonds quand même qui sont étatiques pour la plupart. Il y a aussi des fonds du 1% logement. Et finalement, c'est la seule réponse qu'on a réussi à trouver pour les quartiers populaires, c'est de dire on va détruire vos maisons et on va mettre aussi d'autres gens à la place. Donc ça, c'est, je pense que c'est important de dire ça en préalable. Donc le premier plan ANRU a commencé en 2003 et s'étendait jusqu'à 2014. Et là, il y a un ANRU 2 qui a été démarré et qui doit s'étendre jusqu'à 2024. Et dans ce cadre-là, Un des quartiers qui est menacé, c'est le quartier de la Lionderie, dans la ville de M. Donc ça fait suite à un premier projet de rénovation urbaine qui a concerné le quartier des Auchan-Longchamp, qui a été un projet absolument énorme, qui a concerné plus de 600 logements. Actuellement, il faudrait voir exactement qu'est-ce que ça a changé pour les habitants, c'est-à-dire que le projet il a commencé en 2004 dans les Auchan-Longchamp. Et il faudrait voir justement 10 ans après comment les habitants se sentent. Est-ce que, par exemple, typiquement, est-ce que la pauvreté a baissé? Est-ce que ça a permis d'améliorer le cadre de vie? C'est vrai, quand on s'y balade, c'est quand même, on voit que voilà, c'est un peu plus neuf qu'il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a toujours des soucis et que tant qu'on ne traitera pas autrement la question des classes populaires autrement que par le fait de détruire leur logement, à mon avis, ça ne va pas changer grand-chose. En tout cas, toujours est-il que là, depuis, peut-être Anita, tu pourras nous repréciser les dates exactes, mais depuis 2014, il y a un projet de rénovation urbaine qui se met en place sur la Lionderie.
Oui, je dirais plutôt un projet de démolition, comme ils veulent bien nous faire comprendre, en fait. Donc,
peut-être préciser que la Lionderie, c'est une ancienne cité de transit qui a été construite en 1973. Et ce qui est une espèce d'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui ont été déplacés par les rénovations urbaines des années 70 qui ont été mis à la Lionderie, en fait. Et donc, du coup, là, actuellement, il y a un projet de rénovation urbaine qui s'abat sur des gens qui ont déjà vécu un déplacement dans les années 70. Donc, il y a une espèce de répétition de l'histoire qui est là absolument saisissante. Et voilà, et peut-être préciser que voilà, la Lionderie, c'est peut-être le deuxième quartier d'habitat social après les Auchan-Longchamp. Et donc, dans l'idée du maire qui était à l'époque Francis Vercamer, c'était un peu le deuxième point noir de la ville. C'est-à-dire que M, c'est une ville plutôt classe moyenne, où chacun a un peu sa petite maison, etc. Et pourtant, dedans, il y avait deux points noirs. Le premier, c'était le Auchan-Longchamp avec des grands ensembles HLM. Et le deuxième, c'était la cité de transit de la Lionderie, qui est en fait une cité qui est gérée par... Le propriétaire est Villogia, donc un bailleur HLM. Et la gestion est une gestion de Solia, donc Solia qui est ex-Pact, programme d'action contre les taudis. Et donc voilà, une espèce de double gestion à bien préciser d'abord.
Peut-être que du coup tu peux revenir sur Anita sur l'histoire justement de comment vous avez découvert ce projet, etc. Comment ça s'est passé?
Alors, comment on l'a découvert? Tout simplement, on a réussi à avoir le dossier de la mairie, de la MEL du moins, où on a bien compris que tout notre quartier serait démoli, donc vraiment les 63 logements. À la base, c'était pas du tout prévu comme ça. C'était plus, on va ouvrir votre quartier, il y aura le moins de maisons possibles démolies. Et pour finir, on se rend compte que, non. Et ils veulent nous mettre des parcs qui ne servent strictement à rien, puisqu'on a un parc qui est toujours fermé devant chez nous. Et on n'a vraiment pas envie de ça, en fait. On tient nos maisons, les familles, ça fait 40 ans qu'ils vivent là. Moi, pour ma part, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que j'habite là. Ma grand-mère, elle a 77 ans, elle veut pas du tout changer de maison. On est très bien, nos voisins, ils sont adorables. Certes, il y a des maisons qu'il faudrait rénover, mais tout démolir, non, je comprends pas, en fait. Où il est le problème de tout démolir, quoi.
Est-ce que tu peux décrire un petit peu le quartier, comment il est fait, comment il vit, tout ça? Qu'est-ce qu'on y trouve, les gens qui sont?
Alors, comment il est mon quartier? Des souvenirs, oui, j'en ai. Je jouais avec mes amis dehors, on faisait des bribris, on se cachait dans tout le quartier. Si on avait le moindre souci, on allait chez un voisin, il n'y avait pas de souci. C'était vraiment une famille. C'était pas mon voisin, c'était ma famille. C'était vraiment un quartier vivant. Certes, il s'est dégradé depuis un certain temps, mais je suis sûre qu'on peut arriver à revenir comme avant. Donc... Mais j'aime mon quartier comme il est, en fait.
Des exemples, nous en Roubaix, on a des exemples sur des projets en rue. Parce qu'on en a eu un gros qui s'est mis sur le quartier des Trois Ponts.
Ouais.
Donc on a vu comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau, mais on n'a pas traité l'humain. Donc on traite la pierre, mais l'humain, ça ne change pas. Donc pourquoi ça changerait foncièrement la vie des gens si... ils sont toujours dans la précarité, même si il y a eu aussi des déplacements de population. Il y a des personnes, des familles qui étaient sur l'Alma, qu'on a rapportées sur les trois ponts. C'est souvent des assignations à résidence. C'est-à-dire que vous avez droit à certains quartiers. Il y a des quartiers où vous ne pouvez pas aller. Vous allez faire des demandes, vous allez être toqué. Donc, mais il y a des quartiers où on veut bien vous mettre. Après, je pense que Roubaix, c'est peut-être Roubaix, mais on a peut-être les mêmes pratiques ailleurs, parce que les bailleurs sociaux, je pense qu'ils ont aussi une ligne qui ne change pas. Donc les pratiques sont souvent les mêmes et elles se répètent, malheureusement.
Bah, moi, là où c'est piégeux, c'est que justement le fait de travailler sur le bâti, comme tu dis, c'est que du coup ça permet de complètement mettre de côté la question sociale et la question des personnes qui sont dans ce bâti et qui ne vont plus y être, et les nouvelles personnes qui vont y arriver et qui vont du coup repeupler, parce que là je dis repeupler, c'est peut-être un gros mot, mais c'est des mots qui sont utilisés chez les techniciens de la métropole, par exemple, de repeupler le quartier. Et ça, en fait, c'est nous ce qu'on essaye de dénoncer, c'est cette logique un petit peu qui est celle de la mixité sociale, pour pas la nommer, qui vise justement à dire voilà, on a, comme disait, et quand Janoé, je pense que voilà, on peut le dire aussi, quand Janoé parle de point noir, c'est pareil, c'est un vocabulaire qui est utilisé dans les administrations, etc. C'est pas nous qui l'utilisons, on le reprend pour montrer à quel point justement on stigmatise en fait des quartiers et leur population. Voilà. Et du coup, cette mixité sociale, elle vise justement à casser ces points noirs, à dire là, il y a une, on va parler de poche de pauvreté, et du coup, on va la casser, on va du coup éviter de mettre toutes ces personnes-là qui concentrent les mêmes problématiques dans les mêmes endroits. Sauf que, Anita pourra après en plus mieux en parler que moi, sauf que c'est comme tous les quartiers, comme dans les quartiers bourgeois, comme dans les quartiers de classe moyenne, comme dans les quartiers populaires, il y a des liens qui se font entre les personnes qui y habitent, et le fait de partager des problèmes avec tes voisins ou les mêmes questionnements, etc., bah, ça permet de s'organiser, et ça permet d'organiser la solidarité, l'entraide, etc. Et en fait, quand on va taper dans ce bâti-là, bah, on va taper justement aussi dans le social, et donc du coup dans les relations sociales que ces gens ont, qui sont parfois primordiales pour leur vie, pour leur l'entraide, etc. On va taper là-dedans, on va faire partir des personnes qui sont actives sur le quartier, on va faire partir des commerces qui permettaient un peu de faire le lien, ou des assos, etc. Et donc du coup, voilà, à travers cette mixité sociale là, on va du coup en fait complètement mettre à sac les sociabilités des personnes qui habitent, enfin voilà, le lien social des quartiers populaires. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle, et donc du coup, pour mettre des personnes avec des revenus plus importants, en se disant comme ça, le quartier sera plus équilibré, etc., machin. Sauf que, parce qu'on dit, du coup, ces quartiers pauvres sont trop homogènes pauvres. Voilà, je dis mal, pardon.
Homogènes dans la pauvreté.
Homogènes dans la pauvreté. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que à Lille, en plus qu'ailleurs, c'est que les quartiers les plus homogènes, c'est pas les quartiers pauvres, c'est les quartiers riches. Et que là, on retrouve le plus d'homogénéité sociale, c'est dans des quartiers qui sont pas forcément du coup concentrés sur Roubaix, mais dans des villes limitrophes qu'on connaît bien.
On en a à Roubaix. Hein.
On en a à Roubaix, dans le sud de Roubaix aussi, oui.
Dans toute la périphérie de Roubaix,
oui.
C'est les beaux quartiers. Mmh. Roubaix, c'est un exemple un peu... C'est pas la banlieue, parce que la banlieue, le centre-ville est souvent éloigné des quartiers. Non, Roubaix, les quartiers sont autour du centre. Et les beaux quartiers sont à la périphérie. Et ces habitants-là, tu les vois jamais, parce qu'ils viennent jamais au centre-ville.
Mmh. Et donc, du coup, voilà, c'est la mixité sociale, on veut bien la faire. Mais dans certains quartiers et pas dans d'autres. Et que installer du logement social à Bondu ou à Croix ou dans d'autres villes comme ça ou dans d'autres quartiers, pour pas les nommer, c'est pas possible, parce que on a une opposition municipale, on a aussi des personnes qui ont de l'influence, qui sont des habitants, des résidents, qui ont plus d'influence que les habitants des quartiers populaires, et qui donc du coup vont même, on en a vu l'exemple cette année encore, qui vont même manifester pour dire non, vous installerez pas, allez à la mairie pour râler, non, mais vous installerez pas machin de logement social dans notre commune.
Ils préfèrent payer les petites amendes qu'on...
Voilà, sachant qu'il y a une loi SRU qui oblige toutes les communes de France à disposer d'un parc social, je crois que c'est 25% de... 25% de logements sociaux. Et du coup, après, il y en a que des communes qui préfèrent payer des amendes pour ne pas avoir à construire ces logements plutôt que de les construire. Quoi.
Disons-le, Bondu, 11% de logements sociaux.
Voilà. Par exemple. Voilà. Et donc, voilà. nous, on est là un petit peu aussi pour essayer de montrer ce que souvent... Mixité sociale, c'est un terme qui où on peut pas de fait on dit ah mais c'est cool, on va mettre des gens différents ensemble, ça va être chouette. Et c'est vrai que ça a cette espèce de vernis un peu voilà de mettre ensemble les gens, de faire voilà ah, ça. Et c'est difficile de s'attaquer à ça en fait. Et donc du coup nous ce qu'on essaye c'est de casser un petit peu ce vernis. Et de toute manière les gens s'en rendent très rapidement compte quoi. C'est que c'est toujours les mêmes qui déménagent, c'est toujours les mêmes qui doivent se retrouver un logement, et voilà. Et donc du coup, sur le quartier de, pour revenir à la Lianderie, j'imagine que l'idée c'est ça aussi, c'est de faire aussi cette mixité sociale, de casser oui. ce point noir comme ils l'appellent. Enfin, je veux dire, c'est quand même ultra stigmatisant et ultra choquant pour
et
les personnes.
Et on est beaucoup aussi dans le contrôle social.
Et en plus, oui, complètement. Donc du coup sur la Lianderie, enfin du coup vous par exemple comment vous l'avez appris ce truc, c'était que vous avez eu des réunions, des choses, des
ben réunions oui et non on va dire, on l'a su par quelqu'un qui siégeait au comité à la mairie,
comité de quartier,
donc qui nous a transmis le dossier et en fait on a su comme ça que le projet avait totalement changé. Et que le maire nous avait encore une fois trompés avec ses beaux blablabla. Bla bla. Et on a eu une réunion le 9 septembre, où tu étais présent, Janoé. Et là, on lui a dit clairement que non, en fait, on ne voulait pas ça et qu'il était hors de question qu'on déménage. C'était pas du tout prévu comme ça. Donc, il était un petit peu énervé, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, j'ai décidé de me battre pour mon quartier parce que je l'aime et il est hors de question de détruire ma maison. Je ne déménagerai pas, c'est clair, net et précis.
Oui, peut-être tu as tout à fait raison. Là-dessus, on peut préciser qu'en fait, il y avait un premier projet qui avait été lancé qui prévoyait beaucoup moins de démolitions, en fait.
Une vingtaine.
Qui avait été fait par un premier cabinet d'architecture. Et en fait, quand les habitants sont arrivés à cette réunion du 9 septembre, ils ont découvert sur le moment qu'en fait, tout le quartier allait être rasé. Donc vous imaginez le choc quand on vous apprend que votre maison va être démolie. Et ben forcément, alors je raconte un petit peu la réunion parce que c'était quand même vraiment un moment assez incroyable. Donc il y avait d'un côté tous les élus et tous les institutionnels, donc Solia aussi était là, Villogia, etc. Et de l'autre, les habitants, donc avec une disposition très frontale et très « on va vous expliquer ce que c'est, on va vous expliquer ce qui est bien pour vous ». Quoi. Et au milieu de cette disposition, la maquette. Avec en rouge et en orange toutes les maisons qui allaient être détruites en rose.
Plus de maisons.
Et plus de maisons. Et voilà. Et du coup, beaucoup d'habitants qui ont juste dit, bah en fait, nous, on voudrait être prévenus avant qu'on nous dise qu'on va détruire nos maisons. Et puis on voudrait être concertés. Et puis on voudrait aussi avoir notre mot à dire. On n'est pas tout à fait d'accord avec quelle maison doit être détruite. Parce que je pense que ce qui est important de préciser, c'est que à la Lianderie, il y a aussi des gens qui aimeraient bien partir ailleurs. Et c'est pas du tout un problème. Et il y a des gens qui aimeraient rester, et c'est pas du tout un problème non plus. Et donc du coup, on nous bassine en permanence avec l'idée de participation des habitants, etc. Il y a une loi qui a été votée en 2014 spécifiquement là-dessus. Et ben à un moment donné, ce serait temps qu'on le mette en place, en fait.
Mais c'est souvent des pratiques qu'on voit... Moi, je parle de Roubaix, mais je suis persuadé qu'ailleurs en France, on a les mêmes pratiques. C'est-à-dire, on essaye de vous mettre devant le fait accompli et pour vous dire que vous n'avez pas de recours. Après, c'est clair qu'il y a une organisation, ben, comme on le voit dans l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est une organisation qui se met en place d'habitants qui ne sont pas d'accord et qui veulent faire porter leur choix et contester... le fait accompli et les pressions qu'ils subissent.
Si je peux me permettre, bien d'ailleurs, sûr. Justement, moi j'ai suivi un peu comment ça s'est passé, alors plutôt à la fin sur le PIL. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les projets d'aménagement sur le PIL et à la Lianderie, et notamment le vocabulaire qui est utilisé, c'est très similaire en fait. On parle de désenclaver le quartier. Alors, qui a décidé que le quartier était enclavé, ça, on se le demande, mais c'est vraiment c'est vraiment ce qui est utilisé. On parle de faire des aérations. Donc, aération, qui est-ce qui décide à un moment donné il faut aérer cet endroit ou pas. Et tout ça, c'est plutôt des cabinets d'architectes qui décident de ça avec l'accord, avec le soutien des municipalités. Et là-dessus, je pense qu'il y a, il y a un vrai problème. Après, peut-être, Anita, tu peux nous raconter le début du collectif logement, si, enfin, ce que tu en penses.
On a commencé petit, et là, là, on est une trentaine de personnes à se mobiliser pour nos maisons. Et je crois que ça va continuer à s'agrandir, en fait. Du moins, j'espère.
Raconte-nous la réunion du 18 novembre, là.
Alors, le 18 novembre, on était dehors. On a trouvé des chaises, donc on a parlé avec les habitants, leur expliqué qu'on voulait se battre pour nos logements, qu'on n'allait pas lâcher l'affaire aussi facilement. Et ils ont tous très bien compris. On a eu affaire à une journaliste qui était super sympa, qui a super bien écrit dans l'article paru mercredi.
Dans la Voix du Nord, ouais.
Donc, on était assez contents de cette réunion, en fait.
Peut-être préciser pourquoi on était dehors.
Parce qu'on n'a pas pu avoir la salle.
Salle du centre social.
Le centre social a refusé de vous prêter la salle, c'est ça?
Excuse-moi. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le collectif d'habitants a décidé d'organiser cette première réunion un peu comme une réponse aussi à la réunion du 9 septembre, donc le 18 novembre. Surtout qu'en plus, dans la réunion du 9 septembre, il avait été dit qu'il allait y avoir que la concertation allait commencer
au mois d'octobre.
Entre
l'architecte et habitants.
Absolument vu personne. Et donc, du coup, cette réunion du 18 novembre, c'était un peu une manière de dire... Eh ben, on va pas attendre que les choses pleuvent sur nous, on va se prendre en main nous-mêmes et on va organiser quelque chose. Et en fait, on a prévenu un petit peu tard le centre social, mais la réponse, apparemment, ça a été de dire non, on n'a pas été, en tant que centre social, associé au début de ce collectif d'habitants. Et donc, du coup, on vous refuse la salle. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on, nous, on a décidé de se réunir quand même, mais c'était un 18 novembre. Alors normalement, en plus, il devait pas pleuvoir, mais il a plu quand même. Mais c'est pas grave. On a installé des chaises, il y avait du café. On a pris le mur comme tableau pour noter les désirs des habitants, et ça a été très très riche.
Oui.
Et du coup, c'est quoi du coup les revendications? Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est sorti un peu? C'est quoi les...
Il y en a beaucoup qui souhaiteraient rester dans leur logement. Il y a même certaines personnes qui aimeraient acheter les logements. Il y en a d'autres qui veulent partir, mais rester sur M. C'est aussi ça le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de logements sur M. Surtout pas de logements comme moi. Et surtout pas au même prix. Et... C'est tout, je crois. Après, il y avait quoi encore, Janoé? Tu te rappelles un peu?
Peut-être ce qu'il faut préciser aussi, c'est que donc c'est une gestion Solia de la cité familiale de la Lionnerie. Et en fait, ce qu'on a l'impression, c'est qu'en fait, Solia, en attendant que la rénovation urbaine se fasse, elle néglige complètement son patrimoine. Et en fait, quand on se balade à la Lionnerie, alors du coup, il y a des habitants qui tiennent extrêmement bien leur logement, tout est très...
carré.
Tout est très carré, hein, pour nommer personne. Mais il y a quand même des gros soucis d'insalubrité qui ne sont pas le fait des habitants, qui sont en fait le fait que Solia néglige complètement son patrimoine. Et notamment, en fait, la cité familiale, faut savoir que les cités de transit, à la base, étaient construites pour entre 10 et 20 ans. Quand les gens sont installés, à M, on leur a dit vous allez rester une dizaine d'années et puis après on vous relogera ailleurs dans du logement normal entre guillemets. Et du coup, on a construit un peu aussi les maisons qui sont plutôt confortables. Enfin, elles sont plutôt belles et confortables.
Elles sont très bien.
Mais il y a beaucoup de malfaçons quand même.
Ah oui. À l'époque.
Vas-y, hein, si tu veux nous...
Vas-y, je te cède la parole.
Je vais me retrouver à faire que parler encore, mais il y a une dalle de béton unique sur... c'est une cité familiale qui est sur deux rues,
Et il y a une dalle de béton unique. Et en fait, quand il y a un souci dans un logement, et bah, du coup, ça se rejaillit sur l'autre logement. Et donc, ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment réfléchir. Et donc, je pense que ce qui est sorti un peu de la réunion du 18 novembre, c'est aussi qu'à un moment donné, il faut que ceux qui sont responsables de cette situation du logement, ils se mobilisent. Ils fassent en sorte de rénover la cité familiale, quoi.
Non, mais là, on a un bel exemple de mobilisation et de pratique, on va dire, je ne sais pas quel mot je peux trouver, mais tellement c'est récurrent, c'est les mêmes pratiques qui se renouvellent dans différents quartiers. Et malheureusement, c'est un peu partout en France, dans la plupart des quartiers populaires, on a le même système qui se remet en place. Et c'est vrai que les aménageurs, on dirait que c'est du copier-coller. Voilà, ils viennent avec une méthode de travail et ils appliquent leur méthode de travail et ils viennent avec leurs techniciens, ils impressionnent parce qu'ils sont beaucoup, ils sont tous en costard cravate avec des petits ordinateurs, voilà. Mais moi, pour vous parler du PIL, toutes les réunions qui ont été faites, s'il y avait 5 habitants dans la pièce, c'était bien, hein. Et à côté, vous aviez le collectif qui s'était créé. Il y avait 100, 120 personnes qui venaient parce que les gens étaient directement concernés, mais la démarche était complètement différente. Vous avez une démarche qui partait des habitants et vous avez une démarche institutionnelle qui était tout le contraire. Voilà. Donc c'est des pratiques qui sont récurrentes, malheureusement, qui produisent les mêmes effets. Voilà. Et après, on nous parle tout le temps de la participation des habitants, mais on sait très bien ce que ça veut dire derrière ce mot, parce que c'est devenu tellement à l'heure que... C'est une vraie catastrophe. Après, on se plaint pourquoi les gens ne participent plus, pourquoi les gens ne se déplacent même plus pour aller voter. Franchement, on peut comprendre certaines situations, même si... voilà. Donc là, peut-être pour terminer un peu, parce qu'après, on va faire une petite pause musicale et après, on change de sujet, si j'ai bien compris. Hein.
Peut-être, oui, juste dernière chose, c'est aussi que voilà, tout ce mépris des habitants, il se ressent au quotidien. Et quand on était à la réunion en septembre, la personne de Solia a dit aux habitants en face, non mais il y a une recrudescence de rats partout en France, donc ne vous étonnez pas si vous avez des rats chez vous. Et ce genre de commentaires, c'est inentendable. Et du coup, il y avait beaucoup d'habitants, et à juste titre, qui étaient très énervés, et qu'on dit aux gens, voilà, ça fait 40 ans que vous nous prenez pour des cas sociaux, mais nous, on va vous montrer qu'on ne l'est pas, et qu'on peut se défendre, et qu'on peut agir pour notre quartier.
Sachez qu'au niveau de la radio, nous, on est prêts à vous recevoir quand vous le souhaitez. Suivre votre combat, il n'y a aucun souci. Les antennes vous sont ouvertes avec un grand plaisir.
Merci.
Peut-être pour finir, je pense qu'il y a un truc qui est vachement chouette, je trouve, sur la Lionnerie et qui a manqué au PIL. C'est que sur le quartier du PIL, donc peut-être qu'on fera une émission spéciale sur le PIL parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Et puis voilà, donc ça arrivera bientôt. Mais juste pour en parler très rapidement, le gros problème qui a eu, c'est qu'en fait, la mobilisation s'est développée au moment où en fait le projet était déjà ficelé, en fait, où il avait déjà été voté, où les urbanistes savaient déjà ce qu'ils allaient faire, etc., etc., etc. Et donc on est arrivé au milieu du processus. Et là, c'était compliqué, en fait, d'avancer des billes, de pouvoir proposer un contre-projet, etc., parce qu'il fallait déjà gérer l'urgence des gens qui étaient déjà en train de se faire expulser, qui étaient déjà dans ces trucs-là.
Il y a ça, et il y a le changement de municipalité.
Et en plus, avec un changement de municipalité, etc., enfin, c'était vraiment des trucs très lourds. Mais ça a été formateur pour d'autres quartiers, parce qu'en fait, dans ce collectif du PIL, il y a des gens d'autres quartiers qui sont venus aussi participer, que ce soit des gens de l'Alma, que ce soit des gens de l'Épeule, parce que eux, ils savent que leur quartier, il est concerné, notamment par la même chose, c'est-à-dire par l'Enrue 2, la deuxième partie, comme expliquait Jeannoé, des projets en rue, et qui donc, du coup, sont venus un petit peu s'auto-former avec nous, parce que, enfin, on n'est pas des spécialistes, encore une fois, donc on est là, on apprend ensemble, enfin, c'est un peu, c'est ça qui est chouette dans ces collectifs, c'est que c'est des formes d'éducation populaire, quoi, et qui, du coup, elles, dans leur quartier, vont pouvoir faire la même chose, mais du coup, avec un temps d'avance, un coup d'avance sur les décideurs, les promoteurs. Et c'est un peu le cas, ce que j'ai l'impression qui est chouette avec la Lionnerie, c'est que vous êtes dans une phase où en fait les décideurs ne savent pas exactement comment ils vont faire encore. Et du coup, il y a la possibilité d'avancer des arguments, d'avancer des contre-propositions, de montrer que voilà, d'être pas en réponse, mais d'être là de manière plus offensive en fait. Et ça c'est super important dans un projet, c'est pouvoir avoir ce coup d'avance, parce que c'est vraiment une fois, c'est une machine avec, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de fric et beaucoup d'enjeux. Quand on rentre dedans en plein milieu, au moment où elle est en train de se déployer, c'est dur.
On fait la pause musicale et on revient juste après pour notre troisième sujet. Farouk, quand tu veux.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Fait un poster 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 Mais je sais Bu bizim dergahı mızdır Mutluluk dergahı değil Senin dışında her ne varsa yoktu Her tarafını kendi ara Çünkü her aradığın sendedir Çünkü her aradığın sendedir
Retour sur les ondes de Pastel FM, 13h passé de 38 minutes. On va continuer un peu notre émission. Je vous laisse faire la présentation du sujet sur lequel on va discuter.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait lié avec ce qu'on vient de parler juste avant. C'est-à-dire que Clément et moi-même, on est... alors Clément est docteur et il a passé sa thèse. Tu as passé ta thèse en...
C'était en 2015. J'ai soutenu en 2015. Ça fait 2015.
Et moi, je suis en doctorat, donc encore une réflexion en cours. Mais on s'est tous les deux intéressés à des projets de rénovation urbaine. Et moi, pour ma part, plutôt de manière historique. Et Clément, t'en parleras mieux
que moi. Un peu plus contemporaine, même si vous allez voir que l'essentiel de ce que je vais vous raconter, ça se passe dans les années 90, en fait. Donc on est sur de l'histoire du temps présent, quoi. C'est remonter à 20 ans en arrière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Et pour ma part, moi j'étudie deux gros projets de rénovation urbaine. Le premier, c'est la rénovation urbaine des années 60 dans le quartier du centre, donc tout ce qui est Édouard Ancel, donc à côté d'Eurotéléport. Un quartier, c'est vrai que quand on le voit actuellement, on voit des bars et des tours, c'est pas tout à fait normal, ça appelle un peu, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et en fait, il y a une riche histoire de ce quartier avant, et à un moment donné, il y a eu un gros projet de rénovation urbaine dans les années 60, et je m'intéresse à ce projet de rénovation urbaine, et un deuxième projet de rénovation urbaine dans les années 70, où là, c'était plus des actions ponctuelles sur les courées, mais qui en fait ont concerné plus d'habitants. Il y a à peu près 7000 habitants qui ont été bougés via ces opérations de rénovation urbaine qu'on appelait des opérations de résorption de l'habitat insalubre, donc la loi de 1970.
Ce qui doit être intéressant, c'est la lecture qu'on peut avoir des stratégies qui ont été mises en place pour déjà penser, parce que je pense que les personnes qui sont derrière ça pensent sur 20, 30, 40 ans, comment on va occuper un peu de manière géographique, comment la métropole va être dessinée, quel pôle on va mettre. Donc il y a plein de délires comme ça qui se font. Et ce qui est ahurissant, c'est que c'est des visions purement techno, sans les gens, à aucun moment. Et avec... des idées économiques, je vais pas dire farfelues, mais voilà.
On peut le dire. Aligné en tout cas, on peut le dire.
Voilà. Et avec des rapports de force qui changent dans le temps. Et ouais. Donc et le projet évolue aussi selon les rapports de force qu'il peut y avoir dans la métropole, je pense.
Ouais, c'est sûr. On peut comprendre vraiment l'histoire économique de la métropole quand on s'intéresse juste à une zone comme celle de l'Union. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a eu le déclin du textile, qu'il y a des usines confirmées, qu'il y a des espaces qui se sont libérés, qu'un jour, c'est la zone de l'Union, c'est depuis des années un espace de fantasme. C'est là que la CCI installe la tour Mercure dans les années 70, ce qui est déjà un fiasco en soi. Hein, cette tour, c'est cette tentative de vouloir faire du tertiaire à tout prix, donc des bureaux. Il faut plus d'usines, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec... la pensée qui produisent des services, mais on va plus produire les biens sur notre territoire, c'est pour le passé, ça. C'est vraiment une sorte de fantasme là-dessus qui voit Lille comme à Roubaix, mais à Roubaix, ça a l'air d'être encore plus absurde parce que le monde ouvrier, il est encore là, il s'est recomposé, mais les ouvriers sont encore extrêmement présents dans le territoire. Et ce délire-là de, on va faire venir un centre tertiaire, c'était déjà
une belle folie. Ils ont jamais réussi à remplir la Tour Mercure. Bon, c'est sur ce même espace-là que dans les années 90, ils veulent impulser un site d'excellence métropolitain. C'est la communauté urbaine de Lille qui s'empare du problème public que sont les quartiers populaires, que sont les quartiers défavorisés. Et ils disent, il faut qu'on fasse quelque chose de radicalement différent, quoi. On est avant l'ère de la rénovation urbaine dont on a parlé, du programme de rénovation urbaine des années 2000. Mais il y a un peu cette idée-là déjà de la politique de la ville à l'échelle des quartiers, ça marche pas, on n'a pas réussi à régler les problèmes de chômage, de pauvreté qu'il y avait dans les quartiers populaires, il faut qu'on fasse quelque chose de gigantesque. Et la métropole prend ça en main et elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est du développement économique. Parce que c'est important de créer des emplois pour les gens. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est des projets qui sont assez fous, mais qui ont toujours un moment une base qui peut avoir l'air rationnelle ou logique, en fait, pour lesquels les élus se disent, bon, si je fais ça, il y a des chances que les gens qui votent continuent de voter pour moi, parce que effectivement l'emploi, c'est très important pour tout le monde. Donc je vais faire un projet où je vais pouvoir me présenter comme le maire qui a renouveler les emplois du territoire, quoi. Donc ils se disent, il faut qu'on fasse de l'économie, quoi. Ça suffit, ces questions de logement. En tout cas, sur cet espace-là, on a l'impression qu'il y a de la place. Donc c'est une immense zone qui est entre, à la frontière entre Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Donc au nord de Roubaix, sud de Tourcoing et à l'ouest de Waterloo.
Un tout petit morceau de Waterloo, on va dire.
Non, mais c'est vraiment, c'est
pour dire qu'il y a Waterloo.
Ouais. on est sur quelques, je sais quoi, c'est 3 ou 4 hectares. Je pense que c'est sur Waterloo, là où il y en a 80 en tout, quoi. Mais effectivement, et d'ailleurs, les acteurs de Waterloo sont quasiment pas présents de tout le projet, quoi. C'est vraiment une affaire qui se joue entre Roubaix et Tourcoing, plutôt portée par Roubaix au départ, qui lance des premières études sur les quartiers du canal, et puis après, repris par Tourcoing, Michel-François Delannoy, dans son temps, qui a essayé de se profiler un petit peu en se faisant le partenaire privilégié des nouveaux patrons de la nouvelle économie, et qui va essayer d'investir ce site d'excellence-là, quoi. Mais du coup, dans les années 90, on retrouve des choses assez proches de ce qui a pu être décrit pour la rénovation urbaine contemporaine-là. Une démolition vraiment systématique pendant 10 ans, l'établissement public foncier, c'est les techniciens au pouvoir. Il y avait un immense projet qui a échoué, où on voulait faire un grand quartier, etc., en lien avec l'accueil des Jeux Olympiques. À l'époque, Lille avait postulé aux Jeux Olympiques et il y avait la perspective de faire venir le village des médias à cet endroit. Et donc, c'est tout un tas de choses qu'on ranimait, des fantasmes, qu'on ouvert une porte comme ça pour les techniciens. Mais derrière, les politiques ont arrêté de suivre dans les années 90. Ils avaient leur quartier populaire à s'occuper en interne, à Roubaix Tourcoing. Ils voulaient rénover leur centre. C'était les grands moments où on accueille MacArthur Glen, pas loin d'ici, et où du coup, les élus de Roubaix comme de Tourcoing, ils s'occupent surtout de leur centre. Et la zone de l'Union, elle est encore à l'époque tout juste appelée comme ça, quoi. C'est un peu une sorte de lieu dont on parle assez peu, et après l'échec des JO, on laisse un peu tomber le projet, quoi. Les personnes qui continuent de mener le projet, c'est les techniciens à l'EPF, qui viennent juste d'être créés. Donc l'établissement public foncier pour le Nord-Pas-de-Calais, qui est responsable de transformer les surfaces industrielles, détruire, dépolluer, pour pouvoir reconstruire, en fait. Là, ils se disent, bon, on a un petit espace, les politiques font plus trop attention. Ils nous ont juste donné une sorte de carte blanche pour faire un site d'excellence, mais on sait pas trop ce qu'il va y avoir. Nous, on va s'occuper de tout détruire. Et ils profitent un petit peu de ce moment d'inattention-là pour racheter petit à petit les logements aux gens, les petites entreprises, en leur disant, vous savez, là, c'est un site d'excellence où vous ne correspondez pas vraiment à l'excellence, en fait, donc il faut que vous partiez. Et sans avoir même besoin de recourir aux outils qu'on mobilise aujourd'hui dans la rénovation urbaine, qui sont la déclaration d'utilité publique, qui permet d'exproprier les gens, ils sont allés à l'amiable, avec tous les guillemets possibles, expliquer aux gens que leur temps était révolu, que sur cet espace qui devait faire rayonner l'ensemble de la métropole, ils pouvaient plus rester. Donc les petites entreprises à faible valeur ajoutée, les petits garages, les petits commerces, les petits restaurants, les petits bars, et les habitants de classe populaire, ils ne collent pas avec l'éco-quartier, même si à l'époque on n'utilise pas ces termes, il y a déjà les ambitions de durabilité. Donc on stigmatise, on dit, ah vous avez quand même une grande surface d'entrepôt à ajouter,
il y a beaucoup de camions. Un résistant.
Il y a même eu plusieurs résistants. Il y a un résistant qui est encore là aujourd'hui.
Emblématique.
Bah ouais, c'est ça là que tout le monde connaît, qui est devenu un vrai emblème de cette résistance, qui est encore au milieu de la zone, qui a vécu au milieu d'un no man's land, d'une friche, une immense friche pendant des années, à être le dernier des Gaulois.
Et il avait laissé tout seul dans un petit périmètre là. Ils avaient construit la route et lui l'ont laissé dans un petit endroit, mais où je pense que c'était fait exprès en même temps. C'est-à-dire qu'il n'était même pas accessible. C'est-à-dire qu'il y avait des trous, ils ont laissé les tranchées ouvertes, mais ils ont vraiment tout fait pour
lui pourrir la vie.
Ah oui, moi je me rappelle, on a été plusieurs fois lui rendre visite. C'est abominable ce qu'ils ont fait. C'était vraiment parce que, voilà, résistant, et il restait. Et il disait, moi, j'ai pas besoin d'argent. Il dit, moi, je suis là jusqu'à ma mort. Voilà, c'est mon... C'était chez lui et il ne voulait absolument pas quitter. Il ne veut toujours pas quitter.
Ouais. Et aujourd'hui encore, il est là dans le contrebas, dans le fossé. Il y a la route qui est 2-3 mètres plus haut que lui. J'ai une amie qui fait une exposition de photos sur la zone de l'Union et qui a fait une photo en 2009, avant que les travaux aient vraiment commencé, et une photo en 2017, là, cet été. Et on voit vraiment comment, ça là, il était juste sur un coin de route normal. Bon, en 2009, c'est déjà une friche derrière lui, hein, mais on pouvait y accéder directement. Et en 2017, on a l'impression que la terre s'est enfoncée, mais en fait, c'est qu'on a construit la route plus haut que lui et qu'on l'a littéralement mis dans le fossé en faisant une route plus haute. C'est vraiment symboliquement extrêmement violent ce qui s'est passé à cet endroit-là. Les autres résistants qui ont gagné et dont je voulais presque parler tout à l'heure quand tu disais que c'était un peu toujours pareil et qu'on avait un peu perdu d'avance, ceux-là, ils ont vraiment gagné en quelque sorte. C'est les gens de l'Ilo Stephenson, du collectif Rase pas mon quartier, qui, au moment où le PF arrive à leur niveau, donc eux, ils sont au sud de Tourcoing, ils sont en frange de la zone de l'Union, ils disent non, nous on va rester. Et le fait est qu'ils ont réussi. Ils se sont levés assez fort, assez tôt, avec assez de détermination. C'est toute une rue, hein. C'est pas non plus immense, mais ça concerne, j'ai plus une vingtaine de maisons, qui ont été réhabilitées, donc on peut discuter de la qualité de cette réhabilitation. Elle fait pas l'unanimité, et effectivement, il y a un peu de la tôle de toutes les couleurs pour faire du durable sur ces toits-là, donc on peut discuter de ça, mais en tout cas, il y a une vraie victoire de ces habitants d'avoir dit... La démolition, elle s'arrête à la porte de notre quartier, vous ne passerez pas. Et là, on a quand même un bel exemple qui est à des années-lumière des instances de concertation, de la participation des habitants telle qu'elle est pensée par le pouvoir et déposée dans les petits dispositifs institutionnels. C'est parce qu'ils sont allés contre les projets tels qu'ils existaient initialement qu'ils ont forcé les aménageurs à revoir le schéma et qui, du coup, ils ont été inclus. Donc c'est quand même un signe d'espoir et qui montre qu'il faut se mobiliser, que c'est très important, que plus on se mobilise tôt, plus on est nombreux et plus on a des relais en lien avec le pouvoir qui peuvent faire un peu vaciller, un peu peur les gens qui sont à la tête de la mairie, parce que même si plus personne va voter aujourd'hui, on a un maire de Roubaix qui a été élu avec quoi, 3000 voix, c'est quoi,
6700 voix.
6700 voix, mais combien de voix de plus que son prédécesseur?
300
voix. On se rend compte que là, si on arrivait à bouger les centaines de mécontents qu'il peut y avoir, les milliers de mécontents qu'il y a dans une ville comme Roubaix, tu fais basculer très vite. Alors après, il faut, plus que faire perdre les vainqueurs, il faut arriver à proposer une alternative qui fait autre chose, hein, parce que le fait est que depuis Delbar, c'est terrible, mais c'était pas beaucoup plus sain auparavant, quoi.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison de signaler que c'est pas un bloc uniforme, et que même au sein de l'État, même au sein des collectivités territoriales, il y a des intérêts contradictoires. Et je pense que ce que nous apprennent bien justement les leçons de l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aussi faire de l'histoire pour apprendre des choses, c'est-à-dire qu'on va bien sûr remettre dans un contexte, on va pas plaquer, on va pas dire ça se passe dans les années 70 comme ça se passe maintenant, mais quand même on cherche des choses qui permettent de nous donner des informations. Et s'il y a bien un truc que nous apprend par exemple la rénovation urbaine de l'Almagar, c'est que à un moment donné, les habitants se sont mobilisés, mais ils ont eu des financements étatiques, c'est-à-dire l'État qui était lui-même en transformation. Il y avait beaucoup de contestations, c'était après 68, il y avait beaucoup de gens qui avaient intégré le ministère de l'équipement à l'époque. Et bien, il y a des gens qui ont dit, on va financer un architecte et un sociologue pour aider les habitants. Et là, ça, je pense que c'est extrêmement riche d'informations. Ça nous apprend que l'État n'est pas un bloc uniforme et qu'il y a des intérêts contradictoires. Et que je pense que localement, il faut jouer sur ces intérêts contradictoires. Et c'est, je pense que c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire à la Lyon-Drie, c'est-à-dire à essayer de voir s'il n'y a pas des financements en fait, qui pourraient aller contre la municipalité. Et là-dessus, je pense qu'il faut, il faut bien être conscient que des portes sont encore ouvertes, quoi. Des portes sont encore posées.
Mais je pense qu'il n'y a pas des fonds de participation pour.
Tu parles des fonds de participation des habitants.
Ouais.
Après, si on prend, je sais pas, vous connaissez le budget de l'aménagement du réaménagement de la Lyon-Drie?
Je serai à peu près 180 millions. Si
voilà, le fonds de participation des habitants, c'est 762 euros. ce que les habitants ont le droit d'avoir pour s'organiser, et voilà ce que l'État met en œuvre pour agir sur un projet de rénovation.
Peut-être tout à fait pour revenir donc sur un peu sur l'histoire des rénovations urbaines, je pense qu'il faut bien aussi se rendre compte que le quartier qui était au centre de Roubaix, qui est maintenant actuellement donc Édouard Ancel, avant c'était un quartier qui s'appelait le quartier des Longues Haies, qui était un quartier qui était historiquement ouvrier, Et chose finalement assez étonnante, c'est qu'avant il y avait une municipalité socialiste à Roubaix qui s'identifiait complètement à ce quartier ouvrier. Et alors là je parle plutôt des années 30, des 1930. Et en fait toutes les manifestations à l'époque se terminaient là-bas, c'était quand même un haut lieu de la contestation politique. Et à un moment donné le pouvoir socialiste à Roubaix change un peu de nature, et change de nature aussi parce qu'il s'allie avec les patrons. Et en fait il va arrêter de voir ce quartier comme un allié, mais finalement comme un problème à traiter. Et je reviens sur l'idée des points noirs qu'on a dans une ville, c'est-à-dire finalement avoir un quartier populaire, c'est mauvais pour l'attractivité, c'est mauvais pour l'image de la ville, la réputation de la ville. Et donc à l'époque, on parle pas encore de marketing urbain, c'est des choses qui vont émerger beaucoup plus tard, mais il y a quand même déjà cette idée que finalement là il y a un point noir, il y a un point à traiter. Et donc déjà on va commencer par changer le nom du quartier. Donc c'est un quartier qui s'appelait le Longuet, qui a eu des chansons sur lui, qui a été très connu. Il y a eu le bouquin de Maxence Van Der Merch qui est un peu emblématique sur les manifestations qui se sont déroulées là-bas pendant les années 30. Et en fait dans les années 50 on va changer un petit peu avant on change le nom du quartier, et après à un moment donné, donc un quartier qui n'était que décoré, on va décider de tout détruire. C'est absolument énorme, je me souviens plus combien c'est d'hectares de destruction d'habitation, mais en gros c'est 5000 habitants qui sont délogés. Et moi ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette destruction, c'est le traitement social des populations. C'est-à-dire que quand on dit on va détruire, on se dit aussi bon bah peut-être reloger les gens. Et la manière dont on reloge les gens, je pense, en dit beaucoup sur notre société et sur qui on est et sur la manière dont on veut traiter les gens.
Pour revenir un peu sur l'ALMA et ce qui s'est passé avec le financement du projet, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu à Roubaix en plus la création des comités de quartier. Voilà. Donc ça s'est un peu, on va dire, institutionnalisé parce qu'on commence à donner de l'argent et tout. Mais en regardant un peu de plus près la démarche, je pense que cette démarche-là, surtout à Roubaix, ça a été surtout de se dire comment des habitants se sont organisés et nous, puissance publique, on n'a pas pu contrôler ce qui s'est passé. Ça, c'était l'analyse qui a été faite. Après, ils se sont dit, ben, si jamais nous, on finance tout de suite la création de comités, ben, on va pouvoir contrôler la contestation naissante. Mmh. Et je pense que c'est un peu... Mais je pense que ça a été ça qui a cheminé derrière. C'est comment quelque chose qui est apparu, et nous, puissance publique, on n'a pas pu contrôler ça.
Ça, c'est très intéressant, et je pense que ça nous ramène encore une fois à la question de la lionnerie, parce que en fait, maintenant, les comités de quartier sont obligatoires, donc depuis la loi de 2014. Mais en fait, il y a eu une crise dans les comités de quartier à M, et notamment liée à la rénovation urbaine à la lionnerie. C'est qu'en fait, au départ, le maire avait nommé lui-même 3/4 des personnes qui étaient au comité de quartier. Donc l'opposition a dit, bon, bah, ce serait bien de redéfinir un peu ça, quoi, d'avoir un peu des personnes autres. Et donc finalement, ça a été réduit de moitié. Il y a quand même des habitants qui ont été tirés au sort. Et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, actuellement, le comité de quartier à la Lionnerie n'est vu que comme une courroie de transmission des avis du maire, c'est-à-dire à un moment donné, vous avez le droit de dire ça aux habitants, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et en fait, nous, on voit bien à la Lionnerie qu'en gros, les comités de quartier, s'ils disent pas exactement comme le maire, ils se font taper sur les doigts.
Mais après, il n'y a aucune personne de rue Ampère ou rue Edison qui en font partie aussi. Ah non, il n'y a personne.
Bon. Il y a Marjolaine, mais après,
elle est propriétaire.
Elle est propriétaire, donc elle n'est pas exactement dans la même situation. Voilà. Mais effectivement, là, les premiers concernés ne font pas partie du comité de quartier. Et donc, Anita va rejoindre le comité de quartier, certainement.
En espérant. Je vais envoyer ma lettre, si monsieur le maire veut bien me prendre.
Peut-être faire un petit tour avant de clôturer l'émission, parce que on est 13h56 minutes. Donc...
Tu veux rajouter un truc là ?
Un tour de conclusion sur ce qu'on a dit là.
Oui.
C'est un peu dur, mais moi, un des trucs que me font penser toutes ces petites histoires qu'on a évoquées, c'est qu'il est impératif qu'on arrive à s'organiser collectivement pour que les pouvoirs publics prenne en compte l'existant, en fait. Qu'on arrête de faire des politiques du logement, des politiques économiques qui sont pour des fantômes, quoi. Qui sont pour des gens qui n'existent pas, qui ne sont pas là sur le territoire et qu'on souhaite faire venir. Dans tous les délires de mixité sociale, ou le plus volet économique dont j'ai finalement pas trop parlé sur l'Union, il y a cette idée-là de, il faut faire venir des gens qui seraient mieux diplômés, qui seraient plus riches, qui seraient plus cultivés, qui viendraient changer des quartiers comme si ces quartiers-là en eux-mêmes, ils n'avaient pas les richesses ils n'avaient pas les richesses nécessaires en interne, en fait. Alors qu'en fait, si on faisait une politique du logement qui est pour les gens qui sont vraiment là, en leur permettant de mieux aménager leur cadre de vie, en leur permettant de vivre dans de meilleures conditions, mais là où ils ont envie de vivre et de la manière dont ils ont envie de vivre, si on laissait se développer des petites activités économiques de proximité qui servent aux gens directement là où ils habitent, on aurait une ville qui serait quand même vachement moins absurde, qui marcherait vachement moins sur la tête, quoi. L'Union, c'est vraiment ça, quoi. C'est une dizaine d'années de production d'une friche par l'action des pouvoirs publics, sur laquelle après plus personne ne veut venir, en fait. Ils ont voulu faire venir des filières d'excellence. Personne ne sait ce que c'est que ces filières d'excellence, textile innovant, image. Ils ont réussi à faire un truc autour du frénois, mais la conclusion derrière, c'est que plus personne ne veut s'installer là, parce que forcément, c'est une tête de terrain vague. Mais le terrain vague, il est produit par les pouvoirs publics, quoi. Et quand on arrêtera d'être dans ce fantasme-là, de vouloir faire venir des gens de loin, dont on sait même pas de qui on est en train de parler, mais qu'on s'occupera vraiment de ceux qui sont là, eh ben, on arrêtera peut-être de persécuter les gens, en fait. Et sur Roubaix, c'est flagrant. Les classes populaires qui s'en sortent le mieux, qui gagnent de plus en plus d'argent parce qu'elles ont un boulot stable, etc., qui ont les moyens d'accéder à la propriété, au moment où elles achètent, elles partent de Roubaix. Parce qu'on n'a pas produit un logement accessible qui corresponde à leurs besoins et à leurs attentes sur Roubaix, parce qu'on essaye de faire venir une sorte de classe moyenne supérieure, on donne ses où. Alors qu'en fait, sur place, il y a plein de gens qui se débrouillent dans tous les milieux. Et voilà, il faut juste arrêter de marcher sur la tête en se servant des fonds publics pour appauvrir les pauvres et enrichir les riches, quoi. Comme ça se passe encore malheureusement trop aujourd'hui.
Ouais, je pense que en effet, les luttes collectives sont là pour justement essayer de contrecarrer ces projets verticaux qui tombent un petit peu. Qui tombe un petit peu sur la tête des habitants. Et après, Janoé parlait de justement essayer de... Il faut réfléchir de manière stratégique, je pense. Janoé essayait de montrer que par rapport à l'Allemagne, il y avait la possibilité d'utiliser un peu les failles de l'État, etc. Donc oui, c'est une solution. Nous, après, en plus, même à l'APU, comment on fonctionne, on est là-dedans aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de contestation, d'interpellation. C'est ce que l'Allemagne disait, une démocratie d'interpellation, etc. Mais en étant du coup aussi financé de l'autre côté, en essayant d'être dans ce rapport de force pour pouvoir être financé quand même, pour pouvoir avoir des salariés qui travaillent, etc. Machin. Je pense qu'aussi une des forces qui peut marcher et qu'on essaye nous de mettre en œuvre, c'est l'auto-organisation des habitants. Et c'est un mot qui peut avoir plein de sens, mais je pense qu'en fait c'est pas une volonté, en fait c'est un truc qui existe déjà. C'est-à-dire que les gens à Roubaix déjà qui galèrent s'auto-organisent collectivement entre voisins, entre machins, pour subvenir à des besoins, pour se filer des petits services, etc. Et c'est ça qu'il faut reconnaître, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à développer pour, je pense, organiser nos quartiers, etc., pour qu'ils puissent être plus à l'image des habitants tels qu'ils sont et que leurs désirs puissent devenir réalité, quoi, plutôt que qu'ils servent, comme disait Clément, à nourrir des fantasmes technocrates qui aboutissent à l'expulsion toujours des mêmes personnes et à la promotion toujours des mêmes autres, quoi.
Moi, juste un petit mot pour conclure aussi. On décrit des choses qui sont finalement assez déprimantes et on a l'air d'être un peu déprimé par tout cet ensemble de politiques, etc. Après, il faut bien rappeler que même si c'est pas toujours rose, bah voilà, quand on s'organise, quand on milite ensemble, on crée aussi des liens, on se marre beaucoup. À la PU, il faut pas oublier que c'est aussi une bande d'amis, voilà, qui sont plus ou moins soudés, mais où il y a un vrai esprit coopératif qui est super chouette. À la Lyonnerie, moi, j'ai eu vraiment plaisir à rencontrer les gens que j'ai rencontrés, donc voilà, je pense qu'il faut aussi préciser ça, c'est que la lutte, elle est joyeuse et elle peut être joyeuse en tout cas, et voilà, et c'est ça qui va nous faire avancer.
Et elle peut être victorieuse en plus.
Ben moi, je voudrais tout simplement dire merci de m'avoir accueilli dans la radio et que je vais continuer à me battre contre l'ANRU 2. Donc voilà.
Ben on va terminer cette émission par ces mots. On va rendre l'antenne, 14h passé 2 minutes, On a pris quelques minutes, mais Farouk, je compte sur toi pour terminer ça de manière musicale. Et à la prochaine émission.
Premier samedi du mois de janvier, du coup. J'espère que c'est pas le premier.
Ça va aller vite, je pense.
Ça va aller vite, mais ouais, premier samedi de chaque mois, voilà.
Donc, je pense que ça sera peut-être le 2, non?
Bon, peut-être. Et l'émission est...
Lundi 4, dimanche 3, samedi 2.
Ouais. Et l'émission est disponible en podcast sur le site internet de l'APU, si vous souhaitez le partager, le réécouter, voilà, donc apuvive.org.
Et bien sûr, sur le site de Pastel FM, pastelfm.com. À toi, Farouk.
On lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir... dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.